Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu,
que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Bonjour tout le monde, ici donc c'est Micro-ondes en direct de Radio Campus 90.8 FM. Alors c'est la première émission de Micro-ondes sur les ondes de Radio Campus, mais pour les plus chanceux de nos auditeurs, auditrices, on a déjà pu nous entendre sur les ondes d'autres radios de l'agglomération. Parce que, en fait, Micro-ondes, ça, c'est depuis 2015. C'est l'émission qui vous tient donc à contre-courant, en relayant les infos des luttes dans l'agglomération grenobloise qui s'attaque aux injustices sociales, aux frontières et au racisme. Micro-ondes, c'est une émission qui a à cœur de donner la parole à celles et ceux qui subissent les oppressions et à leur soutien. Dans notre émission, vous entendrez des reportages, des interviews, des plateaux débats avec plein d'invités et un peu de musique pour agrémenter tout ça. Et chaque semaine, nous conclurons nos émissions avec des petites brèves d'actualité, de l'agenda militant, de notre chère cuvette grenobloise. À compter d'aujourd'hui, vous pouvez donc nous retrouver tous les samedis de 13h à 14h en direct live sur 90.8 FM. Et si vous n'avez pas d'autoradio ou si votre radio réveil est cassé, pas de panique. Nous sommes aussi en streaming et en podcast sur le site internet Radio Campus, campusgrenoble.org. Et en podcast aussi sur le-tami.info. Vous retrouverez l'ensemble de nos émissions passées et à venir. L'équipe de Micro-ondes, en fait, on est plein. Donc, c'est Françoise, c'est Samia, c'est Abdel, c'est Bast, c'est Jeanne et Jeanne, parce qu'on est deux. Et c'est Vio, c'est Idriss, c'est Yvon, c'est Charlotte, bref, on est plein. Et pour notre première émission sur les ondes de Radio Campus, nous tenons à remercier d'abord chaleureusement toute l'équipe de Radio Campus pour leur accueil, leurs conseils et puis leur gentillesse. Et puis donc pour cette grande première, en fait, c'est au travail social qu'on s'attaque. En fait, on va dire plus clairement que c'est aux attaques contre le social et par conséquent contre le travail social qu'on va tâcher dont on va discuter aujourd'hui. Et sur le travail social qui est malade, on a sur le plateau tout plein de personnes pour nous éclairer et des professionnels qui sont directement impliqués, mobilisés autour de ces questions. Bonjour à toutes.
Bonjour.
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 Est-ce qu'on peut faire un petit tour rapide de vous toutes, où vous nous dites un petit peu vos prénoms, vos métiers et puis quels sont les publics accompagnés? Parce que souvent, le travail social, c'est tellement vaste, on ne sait pas trop ce que ça recouvre comme métier.
Ben, bonjour, moi je m'appelle Macha, je suis éducatrice spécialisée et je travaille là dans une association qui fait de l'accès au logement.
Bonjour, je suis Cécile, je suis assistante sociale de secteur. C'est l'assistante sociale qui rencontre tous les publics, l'assistante sociale qui est sectorisée géographiquement. Donc c'est l'assistante sociale qui est en bas de chez vous.
Bonjour, moi c'est Odile, je suis travailleuse sociale en psychiatrie.
Bonjour, moi c'est Camille, je suis monitrice éducatrice et en ce moment je travaille avec des enfants placés.
Bonjour, moi c'est Dominique, je travaille à la PAZ et qui est une asso de prévention spécialisée, mais je suis sur un service qui s'occupe plutôt des enfants en décrochage scolaire. Ça s'appelle le programme de réussite éducative. Voilà, on est vraiment sur des choses un peu compliquées à expliquer.
Bah, j'espère qu'on réussira peut-être à comprendre certaines choses de vos métiers. C'est le but de ces deux émissions parce qu'il y en aura deux. En fait, le programme est chargé. On s'est dit qu'avec des travailleurs sociaux et sur le plateau, ça ne suffisait pas une seule heure d'émission. Donc, il y aura deux volets. La première émission aujourd'hui et la seconde la semaine prochaine sur Radio Campus à la même heure, 13h et 14h. Et on va revenir à nos invités tout de suite, enfin tout à l'heure. Mais on va juste prendre un petit temps parce que Idriss, tu nous as préparé en fait une petite introduction. Parce que la première question qu'on se pose quand même, c'est le travail social, c'est quoi en fait, et pourquoi on veut absolument en parler aujourd'hui?
Bonjour tout le monde. Et oui, le travail social, qu'est-ce que c'est? La question, elle n'est pas simple. Alors, on va quand même essayer d'apporter des éléments parce que c'est important de contextualiser un peu le sujet du jour qui va nous occuper deux samedis de suite. Le travail social, il est d'abord défini dans le Code de l'action sociale et des familles, qui est un texte législatif, où on apprend que le travail social contribue à promouvoir le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Tout ça par l'émancipation, l'accès à l'autonomie, la protection et la participation des personnes. On peut déjà résumer un petit peu ça, ça voudrait dire que le travail social, il participe au développement des capacités de chacun et de chacune pour agir pour elles-mêmes et sur leur environnement. Donc c'est une définition qui est très vaste. Le travail social recouvre donc un vaste champ professionnel. Il y a une multitude de diplômes et de formations du travail social. Des assistantes sociales aux éducatrices de jeunes enfants, en passant par les éducatrices spécialisées, les conseillères en économie sociale et familiale, etc. Les missions, les professions, les publics accompagnés sont nombreux. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra pas définir avec exhaustivité le travail social, parce que ça prendrait des heures et des heures. Mais malgré toutes ces différences, il y a quand même des troncs communs chez tous les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales. Où qu'elles s'exercent, l'intervention en travail social, elle s'appuie sur des valeurs professionnelles et des principes éthiques et déontologiques. La relation d'aide, puisque c'est de ça dont il s'agit souvent dans le travail social, elle est toujours fondée sur le respect de la dignité de chacun et chacune. Sans principe de solidarité, sans justice sociale, il n'y aurait pas de travail social. Mais aujourd'hui, on est dans un monde qui est attaqué de toutes parts et qui s'ouvre à la marchandisation. Tout se vend, tout s'achète. Et le travail social, il n'est pas épargné. Si une école ou un hôpital peuvent coûter moins cher et être plus productifs, pourquoi pas le travail social? Et même si l'éducation, la santé peuvent rapporter de l'argent, pourquoi pas le secteur médico-social? Donc les attaques libérales, elles pleuvent. Comme ailleurs, les budgets sont coupés ou diminués, les publics sont contrôlés et les salariés sont fatigués. Mais les résistances s'organisent. Depuis janvier 2019, on dénombre presque 90 journées de mobilisation, que ce soit des grèves, des débrayages, des blocages, des manifestations. Mais ces 90 mobilisations, elles sont sur l'ensemble du territoire français. Et à Grenoble, eh ben, il n'y a pas d'exception. Il y a aussi des luttes locales. On en dénombre au moins 3 ou 4 en ce moment, et donc on en fera le tour tout à l'heure. Et l'idée aujourd'hui, c'est de s'intéresser et d'intéresser, on espère, nos auditeurs auditrices, aux raisons de la colère dans le travail social, à la lassitude qui nous impacte dans le travail social et aux formes d'expression que prennent ces colères, comment s'expriment ces colères. Donc voilà, programme chargé qui se découpera en deux temps, un premier aujourd'hui et la suite samedi prochain, toujours sur Radio Campus 90.8 FM. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec Cécile. Cécile, donc, qui est assistante sociale polyvalente de secteur. Le 9 avril et le 21 juin dernier, on a pu voir dans la presse locale que les assistantes sociales de secteur du conseil départemental s'étaient mises en grève. Rapidement, qu'est-ce qui a poussé ses collègues à se mettre en grève pendant deux jours? Quelles sont les raisons de la colère des assistantes sociales de secteur?
Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a signé pour être assistante sociale, à un moment, on a signé pour être dans la relation d'aide et pour se préoccuper un peu des personnes qui vont pas bien, qui sont dans des situations, que ce soit temporaires ou de manière durable. Voilà, c'est pour pas laisser tomber les autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, quand on travaille comme assistante sociale, eh ben on voit bien qu'on n'a plus les moyens d'accompagner les gens. On voit bien qu'en fait, on met des pansements sur des jambes de bois. On voit bien qu'en fait, on ne sert plus vraiment à grand-chose. Alors, tous les jours, on va au travail et puis on se dit, je vais essayer de faire de mon mieux. Sauf qu'on appelle telle association, il y a des subventions qui ont été coupées, donc on ne peut plus orienter les personnes qui en auraient besoin vers cette association. On n'arrive plus à travailler. Et puis surtout, on n'accompagne pas les gens. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai dans mon armoire, on va dire que pour l'instant, j'ai 180 à peu près ménages que je dois accompagner sur 4 journées par semaine, parce qu'en plus, je suis à temps partiel. Donc ça veut dire que mes collègues qui sont à temps plein, elles ont beaucoup plus de dossiers. Et comment je fais pour accompagner vraiment 180 ménages, 180 familles? Sans compter qu'en plus, ce sont des familles qui ont des carences à des moments dans leur vie, qui sont dans des situations extrêmement compliquées, qui demanderaient à ce qu'on s'investisse pleinement. Et moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce qu'il y en a 179 autres qui attendent que je puisse me libérer. Et puis du coup, on fatigue. Alors pendant un temps, on fatigue et puis on fait rien. Et puis un jour, on se réveille parce qu'on a marre d'être fatigué. Et à ce moment-là, on trouve des gens qui pensent comme vous. Et puis on se dit, on va peut-être commencer à appuyer là où ça fait mal. Et c'est ce qu'on a essayé de faire.
D'accord, merci. Dans les raisons que tu exposes, on sent qu'il y a une forme de perte de sens de ce que tu fais au quotidien, de peut-être plus trouver trop de sens au fait d'aller au boulot tous les matins et de se dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a d'autres qui partagent ce sentiment de perte de sens dans son travail?
Alors moi, c'est quelque chose que je constate assez régulièrement. Je vais vous prendre un exemple assez banal, hein, presque quotidien, on va dire. Une jeune fille avec des grosses difficultés psychiques, on va dire ça comme ça. Sa maman a des problèmes d'addiction. Elle est en grande difficulté pour s'occuper de sa fille. La question qui se pose pour nous, c'est travailler la question du placement avec cet enfant, enfin avec la maman pour cet enfant. Le problème, c'est que on sait que en fonction des décisions qu'on va prendre, ce sera jamais optimal. C'est-à-dire que soit on se dit on va protéger cet enfant puisque la maman est en difficulté pour le faire actuellement et on va demander un placement, en espérant que ce soit une famille d'accueil, en sachant que les places sont en nombre très très limité, ou alors elle va atterrir en foyer, où là on sait que c'est extrêmement la crise, il y a très très peu de personnel, de moins en moins. Voilà, il y a des situations à la fois d'organisation du travail où ça ne permet pas de penser les accompagnements éducatifs. Donc c'est un secteur qui est vraiment en crise. Il y a aussi pas mal de violences dans ces foyers. Voilà, donc en fait, tout ça pour dire qu'on est en difficulté pour penser des accompagnements qui soient pertinents au regard de la problématique. Cette jeune fille, elle a besoin d'être protégée. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit de la laisser avec la maman, qui effectivement est sa maman, mais est en difficulté par rapport à son addiction? Ou est-ce qu'on fait le choix de travailler le placement et en fait, on ne sait pas vraiment où elle va atterrir? C'est une jeune fille qui a aussi quand même des grosses difficultés psychiatriques. Elle a besoin d'être protégée aussi de ses pères. Et voilà, et on sait à quel point dans les foyers ça peut être compliqué. La question de la violence entre les jeunes est assez fréquente.
Macha, tu voulais réagir?
Et du coup, sur la question de la perte de sens, moi, je sais qu'il y a des endroits où j'ai pas envie d'aller travailler. J'ai encore le statut de demandeuse d'emploi parce que je suis en CDD. Et à un moment donné, j'avais reçu un courrier pour aller bosser dans un centre d'accueil pour des mineurs isolés étrangers. Et en fait, j'ai un peu discuté avec des travailleurs sociaux qui savent comment ça s'y passe. Et je voulais pas aller bosser là-bas parce que je savais qu'à 18 ans, les jeunes, il fallait les mettre dehors et j'avais pas envie de faire ça. Heureusement, j'ai eu une référente Pôle emploi qui a entendu que je voulais pas aller là-bas et du coup qui m'a supprimé l'offre d'emploi qui m'avait été envoyée. Mais voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, ça peut être l'hébergement d'urgence hivernale. Pareil, j'ai pas envie d'aller bosser là-bas. Normalement, il y a la loi qui protège les personnes et qui dit qu'à partir du moment où elles ont mis un pied dans un hébergement, elles doivent plus être mises à la rue. Mais on sait qu'il y a des assos qui sont un peu trop main dans la main avec la préfecture et qui acceptent de faire un peu tout et n'importe quoi à l'encontre du droit des gens. Et que ces associations, à la fin de la trêve hivernale, remettent purement et simplement les gens dehors. Voilà, donc il y a des endroits où je ne veux pas aller bosser parce que clairement ça n'aurait aucun sens.
Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute peut-être un petit montage sur une autre lutte locale qui est celle de l'ADAT, qui accompagne des jeunes majeurs exilés. Donc ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés devenus majeurs, donc des jeunes majeurs exilés, qui sont menacés d'être remis à la rue et donc qui sont descendus dans la rue le 11 septembre et le 2 octobre pour manifester. Et donc on va écouter un montage qui dure une dizaine de minutes et qui sera suivi d'un petit morceau de musique de Kanazoe Orchestra, la chanson Dounia. On écoute ça et ensuite on rebondira dessus.
Parce que ça fait un moment qu'il y a des jeunes dans ma situation qui se retrouvent aujourd'hui à la rue, qui n'ont pas le droit de défendre ça. Même si on le dit, personne ne nous écoute ou bien personne ne nous prend en compte. Parce que nous sommes des étrangers, nous ne sommes pas des Français ou bien nous ne sommes pas de l'Union Européenne. Quoi qu'il en soit, on doit reconnaître quand même que nous sommes des êtres humains. D'un continent, d'un pays et d'une famille. Nous avons laissé derrière nous des mères, des pères, des sœurs et des frères. Vu la vie que nous vivons chez nous n'est pas acceptable dans notre situation. Je fuis de chez moi parce que je n'avais pas accès à la continuité de mes études. Maintenant, je me retrouve ici aujourd'hui ayant l'espoir de continuer ces études-là, avoir un avenir meilleur. Et je le vois, cet avenir bafoué aujourd'hui. Je dirais, pour d'autres, ils diront que c'est de la peine perdue. Mais pour moi, je dis, tant que je vis, tant que j'ai encore l'espoir de continuer à vivre, je passerai pour mes droits et pour ceux qui m'aident. Je vous remercie.
Merci. Bravo.
Aujourd'hui, pour défendre les droits des mineurs et jeunes majeurs non accompagnés. Ils ont fui leur pays par nécessité, pour sauver leur vie ou assurer leur survie. Ils ont souvent risqué leur vie pour arriver jusqu'ici. Ils ont souvent été accueillis dans des conditions déplorables par les services de la protection de l'enfance, qui n'ont pas su faire face à l'augmentation de leur nombre. Alors, ils ont été réduits à des chiffres, à des parts de budget. Ils ont été ségrégés, discriminés par leur statut de jeunes étrangers. Nous sommes ici pour les soutenir, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls face à ça, pour faire connaître notre indignation, notre profond désaccord avec ces changements brutaux qui mettent à mal notre mission. Nous sommes ici aujourd'hui pour montrer à ceux qui nous regardent que ces jeunes ne sont pas que des chiffres, des pourcentages, des parts de budget. Ils ont des noms, des visages, des histoires, des projets. Ils ont quitté leur pays pour beaucoup depuis plusieurs années et ont construit leur vie, leur identité dans notre département. Nous ne pouvons être, et nous appelons l'opinion publique à ne pas l'être, indifférents et passifs en regardant nos institutions détruire la vie qu'ils se sont construits.
Je peux dire, désespoir ici un peu dans la merde. Mais j'explique à tout le monde. Il y a d'autres qui sont en CAP, normal, qui n'ont pas eu des employeurs, qui cherchent à travailler. Mais nous, on a eu la chance d'avoir un employeur et on veut travailler. Nous, on a de l'avenir. Parce qu'on se disait que quand on était chez nous, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Nous, demain, on peut représenter la France. Moi, je suis bien, j'ai la dignité, mais j'ai la capacité. Mais je sais que je peux travailler partout où je vais travailler. Parce que les arrière-parents, ils ont travaillé, ils ont fait la guerre. Ils ont défendu la France au temps des coloniales. On est colonisé par la France.
Nous sommes les Français.
C'est bien où vous êtes. Courageux, travaillez, luttez contre votre dignité. C'est dur, mais on va s'asseoir. Le papier.
Tous ensemble. Tous ensemble.
Moi, je voudrais juste rappeler à Monsieur le Président, à toutes ces autorités qui refusent de recevoir le collectif. Il ne faut pas oublier que si ces jeunes sont arrivés en France, c'est à cause de la politique impériale et coloniale de l'Occident, la France notamment. Oui. Dernièrement, oui. Monsieur Macron a signé un pacte, le pacte de Marrakech de décembre 2018, qui est passé sous silence. Donc il s'est engagé à recevoir, à régulariser et à accorder l'éducation
naturel en Afrique, donc le minimum respectif de Pâques. Voilà. Qu'on n'oublie pas pourquoi ces jeunes sont là. Ils sont là, ils ont la France leur doit beaucoup, leur doit tout.
Égal, égal, personne n'est inégal. Égal, égal, personne n'est inégal.
Aujourd'hui, on accueille 700 jeunes mineurs et jeunes majeurs au sein de notre service. Et le soutien se porte sur des jeunes qui ont dû quitter notre dispositif à la date du 31 août 2019 suite à un refus du département dans le cadre de leur accompagnement jeunes majeurs. Donc, il s'agit d'un accompagnement administratif, mais tout à chacun peut bénéficier de cet accompagnement. Donc en parlant de chiffres, on a eu 37 sorties au 31 août 2019, donc des jeunes qui étaient accueillis essentiellement dans des familles d'hébergement qui accueillent nos jeunes très, très généralement, dont 22 jeunes sous OQTF. OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire français, qui a été délibérée et décidée par la préfecture. Les 15 autres, eux, sont sortis avec un titre de séjour. Donc c'était des jeunes qui étaient nés essentiellement en 2001 et qui étaient en formation professionnelle et qui ont terminé leur formation. Donc la consigne du département a été de les sortir un petit peu plus tard pour les aider, leur donner, les soutenir au maximum pour qu'ils puissent trouver un appartement, être socialement autonomes dans la vie de tous les jours. Si on fait cette manifestation, c'est parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de majeurs qui représentent un grand nombre de nos jeunes et on a 11 sorties qui sont prévues en septembre, au 30 septembre, dont 9 jeunes sous OQTF et 2 autres jeunes avec des titres de séjour. Donc c'est pour ces raisons-là, avant tout, que nous manifestons. Et on tenait aussi à alerter l'opinion publique sur ces questions-là, parce qu'on sait que le bassin grenoblois est très sensible à ces questions-là. C'est pas la première fois. L'été dernier, nous avions été confrontés à ce type de décision. Le département était revenu également sur ces décisions en estimant que c'était un peu précipité. Mais cette année, ces décisions-là ont une plus grande ampleur. Elles sont de plus en plus importantes et de plus en plus difficiles pour les jeunes. C'est pas un manque de soutien de la part de notre direction. Nous avons tenté d'alerter également aussi les politiques, mais nous n'avons pas eu de réponse encore politique à l'égard de ces jeunes. Il y a eu un très très gros turnover de professionnels qui se fait chaque année à peu près à la même période et à la même période où les décisions tombent aussi. Ça devient de plus en plus difficile parce que de façon globale et générale, le travail social aussi est pris avec ce que peut faire ressortir l'association. Et les travailleurs sociaux, je pense, restent un peu sceptiques à l'idée de venir travailler dans notre service parce que les conditions sont difficiles. Mais aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une situation tellement délétère que les choses ne peuvent plus avancer en ce sens, raison pour laquelle on souhaite alerter l'opinion publique.
Sansegiye antakantakantakantakanin
Et c'est bien Micro-ondes qui reprend les ondes sur le 90.8 FM. Simplement, voilà, on vient de s'écouter du coup Dounia de Canazoé Orchestra. Et donc, comme c'est un morceau où je pense que tout le monde n'a pas compris les paroles, je voulais juste lire leur intention voilà, quand ils ont écrit ce morceau. Du coup, simplement, ils disent « Nous avons eu l'opportunité de rencontrer des jeunes d'Afrique de l'Ouest, des mineurs isolés, des migrants comme on peut entendre dans les médias. » Ce terme est vachement utilisé par les médias. Nous avons été bouleversés par ces jeunes qui ont traversé tant d'épreuves dans leur pays et pendant leur voyage et qui sont renvoyés à la rue par les pouvoirs publics. Nous avons été très touchés également par le travail du collectif Autonomie 31 qui les recueille, qui tente de les scolariser et de régulariser leur situation. Voilà du coup ce qu'il disait et que j'avais envie de restituer à l'antenne. Retour au plateau.
Alors moi je voudrais réagir par rapport au reportage qu'on vient d'écouter. En fait j'ai travaillé auprès de mineurs non accompagnés et je les ai accompagnés justement dans leur mise à la rue en fait parce qu'ils ont reçu un courrier à peu près 2 mois avant d'être mis à la rue et voilà nous l'idée c'était de leur trouver des solutions. Sauf que des solutions en fait il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour eux et la solution qu'on leur donne c'est d'être à la rue quoi. Et moi j'ai une vraie question en fait c'est est-ce que nos dirigeants ils mettent à la rue leurs enfants à leurs 18 ans quand ils ont eu leur diplôme ? Voilà.
Je me permets de réagir, du coup, moi ça m'évoque, parce que je vous entendais aussi discuter tout à l'heure, ça m'évoque pas mal de choses, c'est ces mesures sociales avec ces financements, la pression qu'on vous met à vous, sur vous, en fait, c'est avant tout des pressions sur certains types de publics, en fait. Est-ce qu'il y en a une qui veut quelqu'un veut réagir à ça, en fait, on parlait du sens du travail social tout à l'heure. Le sens du travail social comme émancipateur, est-ce qu'il l'est vraiment, en fait, ce travail social émancipateur ? Enfin, je me pose vraiment des questions.
Bah, peut-être je peux rebondir. Donc, je suis Dominique. J'ai passé toute mon activité professionnelle dans les quartiers populaires. Hein, et je me suis toujours interrogée sur la question du travail social, en se disant déjà que c'était un truc bizarre d'être un travailleur social. Qu'est-ce qu'on venait foutre là pour aider les gens? Ils sont pas assez grands pour se débrouiller tout seuls. Et il y avait toute la question de la régulation, de la normalisation des publics. Et en plus, quand je dis quartier populaire, c'est les endroits où il y a les plus pauvres. Et on sent bien qu'on est là pour permettre à ces pauvres de rester pauvres. Pour qu'ils aient un minimum de droits pour qu'ils fassent pas la révolution. Donc déjà ça, c'était la question d'un type de travail social qui est de la normalisation, parce que Jeanne, tu nous parles d'émancipation, mais le travail social, il est pas là que pour émanciper. C'est une branche du travail social qui pense l'émancipation pour toutes et tous, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit d'où ils arrivent et quelle que soit leur histoire.
Moi, je voudrais juste rebondir parce qu'effectivement, ça fait 11 ans que je travaille là où je suis. Et bon, la première année, quand même, je me disais, oh, c'est chouette. Et puis très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que j'étais là pour mettre un couvercle. Je suis vraiment là tous les jours pour mettre un couvercle pour que les personnes qu'on reçoit, elles aillent le moins mal possible pour que surtout, elles descendent pas dans la rue et qu'elles fassent pas tout péter. Et donc, tous les jours, à coup d'aide financière, à coup de « je vous démêle votre dossier CAF » ou « je vous démêle votre dossier CPAM », je leur dis « calmez-vous, on va arrondir les angles ». Et tous les jours, je mets un couvercle. Et ça commence vraiment à... Moi, peut-être que moi aussi, je vais péter le couvercle, en fait.
En fait, on applique les décisions de nos politiques et c'est nous qui les appliquons, en fait. Et c'est nous qui devons assumer leurs décisions auprès des publics qu'on accompagne, quoi. Ça, c'est un vrai problème, en fait. Comme s'ils n'assumaient pas, en fait, et nous, on assumait pour eux, quoi. Et moi, je me suis souvent retrouvée face aux jeunes qui me disaient « Mais pourquoi vous nous mettez à la rue ?»
Et je trouve même que ça va plus loin, c'est que comme c'est les financeurs, ça va des fois être l'État, la préfecture, ça va être la DDSS, ça va être le département, bref, ça va être des pouvoirs publics qui sont les financeurs des différents dispositifs ASSO. Et du coup, des fois, ça, c'est possible que ta direction, ta hiérarchie te demande en fait de ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'il faudrait faire si tu suis ton éthique. Par exemple, aller jusqu'à des recours juridiques quand les personnes se font sortir d'un hébergement et que c'est illégal. Et bien en fait... J'ai vu plein de situations, pas forcément moi, mais d'autres gens autour de moi, travailleurs sociaux, où on leur demande de pas faire ça. Non, c'est pas ton boulot. Mais alors, c'est quoi le boulot si c'est même pas de faire valoir les droits des gens jusqu'au bout? Parce qu'aujourd'hui, dans plein de situations, il faut aller jusqu'au juridique, en fait, pour faire valoir les droits des gens.
Dominique, tu voulais... Ah non, Odile, pardon.
Oui, moi, je voulais rebondir aussi sur la psychiatrie. Moi, l'impression que j'ai, c'est que aussi on pose des diagnostics à tour de bras, c'est-à-dire que les gamins, il faut absolument les étiqueter. Et évidemment, quand ils sont trop remuants à l'école, parce que on est aussi là pour garantir une sorte de paix sociale, une paix scolaire. Et en fait, tous les gamins qui sont un peu en difficulté, que ce soit sur le plan social ou psychique, il y a aussi un énorme recours aux médicaments. Voilà, donc une espèce de normalisation aussi psychique. Et puis, avec le diagnostic, on les sort du système ordinaire pour aller les cacher dans le médico-social. Où le médico-social, il y a de moins en moins de budget, il y a de moins en moins de personnel, on connaît un peu les conditions de travail là-bas. Voilà, on les met au placard, voilà.
Moi, ça avait marqué aussi le premier taf où j'avais été. On m'avait rappelé qu'en fait, normalement, le but, c'est qu'à un moment donné, on n'ait plus besoin de nous. C'est-à-dire que le travailleur social s'efface, disparaisse. Et par exemple, quand on pense à l'hébergement, et notamment l'hébergement d'urgence, en fait, c'est comme un, je ne sais plus comment on dit, monstre de mer. Vous savez, ce truc qui ressurgit, qui disparaît, qui ressurgit. Ça fait 20 ans en fait, qu'il y a des gens à la rue, 20 ans qu'il y a des politiques publiques censées y répondre, et qu'en fait, il n'y a jamais une réponse complète. Donc, je pense à l'association ATD Quart Monde qui dit, en fait, à un moment donné, il ne faut pas s'accommoder de la pauvreté, il faut la supprimer. Parce qu'on peut ne pas avoir de pauvreté dans une société.
Mais à Télé-Garmont, il est situé politiquement. Donc voilà, moi je suis tout à fait de ton avis, hein, Macha. Mais on s'aperçoit que le travail social, c'est des fois, enfin, avec la professionnalisation, avec plein de métiers, on vient penser que le travail social et que les travailleurs sociaux sont des professionnels de la relation et avec une commande claire donnée par les pouvoirs publics. Et même dans notre corpo travailleur social, il y en a qui disent... Et je vois bien au quotidien, ils disent « mais ça, c'est pas mon boulot, ça relève d'un autre service. » Et voilà, si je suis pas, ça me concerne pas, moi je suis là pour aider. Alors moi, là, on va dire que c'est plutôt les enfants, sur la question de la réussite scolaire, éducative. Et quand les gens sont à la rue, on va me dire « mais non, Dominique, c'est pas ton boulot. S'il y a une carence du conseil départemental, c'est pas à toi à y aller. » Mais bon... Je dis, mais fragilité éducative, quand on n'a pas de toit, quand on n'a rien à bouffer, vous me faites rire, quoi. Vous me faites rire.
La question que je me pose, là, parce qu'on entend, du coup, qu'il y a un contexte général, et que, du coup, le travail social s'inscrit dans ce contexte social. Est-ce qu'il y a une évolution, là, récente, qui expliquerait le fait que, maintenant, la colère s'exprime dans la rue, de la part des travailleurs sociaux, et avec des manifestations et tout ça? Est-ce qu'il y a des choses... sur ces dernières années, qui sont différentes? Soumik, tu disais que le travail social n'était pas forcément fondé sur l'idée d'émancipation, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un débat autour du travail social et au sein du travail social. Est-ce qu'aujourd'hui, la fracture au sein du travail social, elle se creuse? Est-ce qu'il y a une évolution? Ou est-ce qu'on est toujours sur les mêmes débats qui durent depuis longtemps et qui perdurent?
Alors, je crois quand même qu'il y a quand même une question de moyens qui intervient. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, il était hors de question qu'un enfant de moins de 3 ans dorme dans la rue. Alors, ça posait déjà pas énormément de problèmes qu'un enfant de plus de 3 ans dorme dans la rue, ce qui est déjà bon. Et aujourd'hui, bah, en fait, ça pose plus du tout problème qu'un enfant de moins de 3 ans dorme dans la rue, par exemple. Donc, c'est pas que c'était le bon vieux temps et qu'aujourd'hui, c'est terrible. Ça a toujours été plus ou moins terrible, mais là, ça devient insupportable. Parce qu'au fur et à mesure que les gouvernements ou les politiques sociales qui sont mises en place se succèdent, en fait, on voit que le droit des personnes que l'on accompagne, bah, ça menuise petit à petit. En fait, on est dans la logique de peau de chagrin.
Mais par contre, je ne vois pas comment les personnes concernées en premier, ça reste compliqué peut-être pour s'organiser, parce que souvent, en fait, les gens qu'on va accompagner, c'est des gens qui sont dans des situations de précarité qui font que ça rend difficile, en fait, de se mobiliser collectivement par rapport à une structure, par rapport à une institution, par rapport à un pouvoir public. Il y a beaucoup la peur d'être blacklisté, il y a beaucoup la peur que ça leur retombe dessus. Du coup, là, avec, je pense quand même, ce qui se passe du côté des Gilets jaunes, ce mouvement-là social, il est d'une telle importance que peut-être ça joue. Après, du côté des travailleurs sociaux, je ne sais pas s'il y a tellement un changement. Moi, dans les différents services où je passe, je ne le sens pas. C'est bien pour ça qu'en dehors de différents lieux de travail, j'ai souvent besoin de me retrouver avec d'autres collègues et qu'on arrive à penser les choses.
Pour rebondir sur ce que dit Macha, moi j'avais une haute image des travailleurs sociaux et je pensais qu'ils étaient tous révolutionnaires, qu'ils allaient transformer le monde. Après, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que je bosse dans le travail social. Je me suis dit, en fait, non, c'est pas mieux et c'est pas pire qu'ailleurs, en fait. Il y a très peu de mobilisation quand même de travailleurs sociaux de grande envergure. Et peut-être qu'il faudrait, parce que ce que disait Cécile, c'était que c'était de plus en plus dur pour les gens sur le terrain, les gens qui vivent et aussi les travailleurs sociaux.
Oui, sauf que, si je puis me permettre, il faut aussi prendre bien la mesure du fait que les travailleurs sociaux. Oui, alors en fait, non. Il y en a plein qui sont agents administratifs, là où nous travaillons. C'est-à-dire qu'il y a des assistantes sociales qui vont se dire, j'ai, quels que soient les moyens que je devrais utiliser, je ne laisserai pas faire cette situation pour telle ou telle personne. Et puis, il y a des travailleuses et des travailleurs sociaux que ça ne dérange absolument pas. Et ça, il faut bien en prendre conscience. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des agents administratifs et que le travailleur social des années 70, qu'on imagine tous en se disant, il va sauver la veuve et l'orphelin. Non, aujourd'hui, il y en a plein qui se disent, je vais vous sauver la veuve et l'orphelin dans le cadre qui m'est donné. Et je ne prendrai pas de chemin de traverse. Donc ça, c'est aussi un des maux dont souffre le travail social, hein, clairement.
Oui, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas mieux ou moins bien qu'ailleurs. C'est qu'en fait, la question de la transformation, il y a sociale et de justice sociale, ou même des gens qui sont anticapitalistes, il n'y a quand même qu'une minorité qui pense que le capitalisme et la façon dont est organisée notre société fait que ça produit de l'exclusion, que ça produit des pauvres, et que c'est là-dessus que ça fonctionne. Et quand je dis pauvres, là-dessus, on peut parler des... Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont racisés, des femmes... Et puis des minorités et des gens qui n'ont pas de thunes aussi, qui sont vraiment des laissés pour compte pour tout.
Et je trouve, du coup, c'est d'autant plus... le travail social n'est pas un secteur qui soit genre extraordinaire par rapport aux autres secteurs du travail. Ça, on le retrouve dans les fonctions du travail social. C'est-à-dire que comme ailleurs, on a de plus en plus aussi des directions qui sont du côté de la gestion. Moins, en fait, des directions qui viennent elles-mêmes du travail social dans la pratique, dans le terrain. Donc du coup, on se retrouve avec de plus en plus des outils gestionnaires, des outils qui vont être sur une évaluation quantitative et pas qualitative des choses. Du coup, ça, c'est comme dans les autres secteurs et ça vient enlever du sens à notre travail. Et comme tu disais, Dominique, il y a les travailleurs sociaux, les gens qui sont dans ces structures-là, ils sont aussi touchés par tous les discours politiques de plus en plus racistes qu'on entend. Et finalement, ils finissent, on s'en mange aussi, comme tout le monde en fait. On mange ce discours, si on ne prend pas le temps de le mettre à distance et de réfléchir à ce qui se passe, on mange ce discours des migrants profiteurs, des RSAstes et des chômeurs paresseux, etc. Et y compris parmi nos collègues. Je parle de manière large aussi en repensant à tout ce que j'ai pu entendre au sein du collectif dont on fait partie ici plusieurs personnes. On peut entendre ça, que ben on peut entendre des fois des choses qui nous choquent, y compris dans les équipes.
Et, du coup, ça me fait réagir sur la question qu'on se posait au départ. C'est-à-dire, le travail social est attaqué. Mais là, j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est que tout le monde dans le travail social ne ressent pas les attaques, ou en tout cas ne prend pas conscience de ces attaques. Qu'est-ce qui se joue dans le travail social aujourd'hui entre des collègues qui prendraient conscience qu'effectivement il y a des problèmes et des attaques antisociales, racistes, avec les langues qui se délient, et puis d'autres plutôt qui seraient dans le camp de celles qui essaient de s'organiser, de se mobiliser, de lutter. Est-ce qu'il y a une fracture dans le travail social aujourd'hui entre collègues ?
Moi, je peux parler d'une expérience, donc c'est Macha. Je me rappelle d'une structure où j'avais travaillé, parce qu'en fait, bon, j'ai enchaîné plein de CDD, des périodes de chômage. Et en fait, à un moment donné, de m'être rendu compte par rapport à une collègue qui avait eu un souci, qui n'avait pas forcément en fait, de prise de conscience collective, de l'aide qui pouvait être apportée, et de me dire que ben, on n'a pas tous en fait, vécu de l'action collective, on n'a pas tous appris ça. Moi, personnellement, je l'ai appris dans des mouvements d'éducation populaire quand j'étais petite. Et après, du coup, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait partie de collectifs, etc. Donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose un peu qui va de soi. Je dis pas que je suis super, mais je veux dire qu'en tout cas, je connais ces fonctionnements-là. Quelqu'un a un problème, on va essayer de comprendre, on va essayer de se soutenir. Pas tout le monde fonctionne comme ça, y compris parmi les travailleurs sociaux.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi que ça dépend aussi de notre histoire personnelle. Et puis aussi la question de l'individualisation. Dans le travail social, on est sur l'individualisation. Je vous la fais courte. Hein. Dans la question du collectif, elle est toujours compliquée à attraper. Et sur le travail social, on est de moins en moins là-dessus. Enfin, je regarde Cécile. Il me semble que les AS de la polyvalence, au départ, elles avaient un vrai travail de collectif, et que maintenant il y a tellement de situations de merde pour les gens que c'est essentiellement, et puis c'est des choix politiques, hein, c'est essentiellement du clientélisme. Enfin, quand je dis clientélisme, c'est pas terrible, mais du travail de face à face avec les publics, parce qu'ils sont dans la merde et concrètement il faut qu'on trouve des solutions.
Bah, en fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que ce qu'on appelle l'action collective dans le travail social, c'est porté à peu près par tout le monde, les institutions, les associations. Ça serait super qu'on fasse du travail collectif et que les habitants, ils se mobilisent et puis qu'ils montent des grands projets et que ça marche. Oui. Alors d'abord, pour se mobiliser, il faut avoir les moyens de se mobiliser. Et quand on se demande ce qu'on va manger demain, bah, c'est un tout petit peu dur quand même de se mobiliser sur une action collective. Et puis surtout, il y a une question à un moment, c'est de la pratique, hein, c'est quand ? Quand ? Quand, si aujourd'hui vous voulez un rendez-vous avec moi, alors que je suis tous les jours au boulot, bah vous aurez un rendez-vous mi-novembre. Parce que je reçois tellement de personnes en individualité, comme tu disais, que moi, l'action collective, j'ai juste pas le temps. À un moment, ça se finance. Donc on revient toujours à la question des moyens financiers. Voilà. Donc l'action co, c'est une jolie idée.
Et me permet aussi, dans mon travail, l'action collective, elle est aussi, elle n'est pas transmise et elle n'est pas partagée à l'échelle des collègues. C'est-à-dire que ce temps-là, quand j'ai commencé à travailler, maintenant j'ai 44 ans, et quand j'ai commencé à travailler autour de 20 ans, je sais que j'avais des réunions d'équipe. Et des réunions d'équipe qui n'étaient pas essentiellement basées sur de la gestion quotidienne, des tâches, des choses, de la transmission d'informations. Aujourd'hui, à 44 ans dans le travail social, moi je suis dans le secteur de la formation, je suis là exceptionnellement dans une structure où ça se fait encore, mais j'ai travaillé pendant 2 ans dans une structure où, au contraire, quand moi on m'entendait parler, on me disait « bon, on ne va pas faire de réunion d'équipe ». Parce que j'étais seule sur un axe à travailler et pas avec les autres collègues. Et on justifiait le fait de pas me mettre en contact avec les autres collègues, justement parce que j'avais envie d'aborder d'autres types de problématiques. Et notamment d'avoir un discours plus, on va dire, plus politisé, c'est-à-dire lié à la société et à ce qu'elle produit. Et cette culture-là du travailleur social, elle n'existe plus non plus. Avoir des débats aujourd'hui politiques au sein d'une équipe, refaire le monde, comme on dit, rien que ça, ça n'existe plus.
Odile, moi je voulais rebondir sur ça, c'est-à-dire que même quand on parle de politique publique, qui vont vraiment du côté du contrôle social, on est même regardé comme étant une sorte de paria qui revendique systématiquement, alors que finalement, c'est ça aussi le fond de nos métiers, c'est comment on applique les politiques publiques et quels sont leurs travers et qu'est-ce qu'elles viennent aussi mettre en jeu en termes de contrôle social, d'évaluation aussi. Moi, je voudrais revenir aussi sur cette question de l'idéologie de l'évaluation au sein du secteur, qui est absolument terrible. Enfin, les démarches qualité, les transmissions, enfin, tous ces outils qui permettent de quadriller systématiquement, que ce soit des parcours de soins, les parcours des enfants à l'école, enfin, et qui permettent vraiment de quadriller leur cheminement. Voilà.
Et qui prennent un temps fou d'administratif
et qui prennent un
temps
fou
d'administratif. T'es pas dans l'accompagnement des personnes.
Et du coup, on peut moins forcément penser les accompagnements, penser le soin. Enfin, c'est aussi un recul de la pensée.
C'est ça, un recul de la pensée, de la politique. On va être obligé de couper sur cette première émission cette amorce de débat. Désolée, c'est là on est short, mais on a de la chance parce que avec les mêmes invités, on se retrouve la semaine prochaine où on continuera exactement le même débat. On reprendra les bases de ce débat-là. On ira aussi plus parce que on aurait souhaité parler aujourd'hui d'un peu plus de vos luttes dans lesquelles vous êtes impliqués. On profitera de l'émission prochaine pour en parler. Et là, on va passer aux brèves et aux agendas qui sont de petits rituels quand même. Local, les brèves vite fait. Moi, je prends la première petite brève. C'était un petit reportage de paroles recueillies lors de manifestations interprofessionnelles du 24 septembre dernier. Donc voilà une lutte interpro à l'appel syndical, avec une intersyndicale contre une énième réforme de la retraite. Alors c'est pas un reportage exhaustif, hein, c'est vraiment des petites bouts de phrases chopées ici ou là. On fera pas d'émission tout de suite avec eux, donc du coup voilà, c'était juste un petit hommage avec un petit reportage qui fait 3-4 minutes. Voilà, on le lance, c'est des mots pris dans le cortège.
La casse du social, c'est le plus capital.
Alors, vous êtes là aujourd'hui à la manif Interpro et je vois sur votre banderole Travail social en lutte.
En fait, on fait partie d'un collectif Travail social là, depuis quelques années. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir être un petit peu visible en manif aussi et de montrer que le travail social n'est pas épargné par les réformes qu'il peut y avoir en ce moment ou même depuis plusieurs années, les tensions qui peuvent monter, les difficultés liées au travail en général, la surcharge d'accompagnement et la non-prise en compte des souffrances au travail des travailleurs sociaux. Et du coup, l'idée, c'est qu'on puisse être là, en tout cas pour se fédérer, montrer qu'on est présent et qu'il y a du monde en fait dans le travail social qui est aussi fatigué.
On se sent concerné par la réforme pour les retraites qui forcément va impacter les travailleurs et les plus précaires. On est des travailleurs sociaux de pas mal de secteurs, que ce soit la psychiatrie, des travailleurs rattachés au conseil départemental. Il y a des étudiants aussi en travail social.
Moi je suis Amandine, une ATSEM de la Tronche, et donc je fais partie du collectif ATSEM de France. Et cet été, on a envoyé toutes les cartes postales à Monsieur Macron, parce qu'il avait dit aux assises qu'on était les trésors des écoles maternelles et qu'on aurait des avancées statutaires et pécuniaires, ce qui n'est pas le cas. Il doit y avoir 10 000 cartes postales qui ont été envoyées pour lui rappeler qu'on est les trésors oubliés des écoles maternelles. Et lui rappeler ce qu'il nous avait dit.
Ce qu'il faut, c'est se battre pour nos droits, sur nos conquis sociaux. Nos conquis sociaux, c'est les retraites, l'idée même qu'on puisse mettre en place un système par répartition. Et c'est ça le but, c'est la solidarité. Et là-dessus, il est important que cette solidarité, quelles que soient nos appartements syndicaux, quelles que soient nos façons de militer, ou quel que soit simplement le désir de pouvoir changer notre société, il est important d'être tous présents et d'être tous unis.
Lutte sociale, rêve général, la casse du social, c'est le plus capital.
Bon, CEA, on est en lutte pour nos salaires, ça fait 15 ans que le point est gelé. La barre des grilles pour les techniciens et inférieurs sont sous le SMIC. Donc c'est inacceptable. Mais par contre, il y a un parallèle qui est quand même intéressant, c'est qu'au CEA, ben, notre salaire, il est indexé sur le point, dans le service public, et on sait très bien ce que ça va donner avec les retraites. Les retraites en point, on nous dit, ça va être pour 5 ans. Si dans les 5 ans, l'économie baisse, il ne faut pas se leurrer, il y aura des mesures d'urgence. Donc quand ça va aller pire, les retraites vont diminuer. Par contre, si dans les 5 ans, l'économie remonte, les retraites n'iront pas plus haut. On sait très bien ce que ça donne le point. Au final, on est tous perdants. Juste pour vous dire, il y a quelque chose qui est particulièrement énervant, c'est ce double discours des politiques qui mettent l'écologie, le développement durable à toutes les sauces et qui coupent le financement des moyens de transport collectifs. Donc aujourd'hui, c'est la ligne de Grenoble-Gap qui est menacée. Alors ils ne la ferment pas, c'est une suspension temporaire, une limitation de vitesse à 0 km/h à partir de décembre. Et donc le Gap sera plus relié, la capitale des Hautes-Alpes, à Grenoble.
Alors une deuxième brève après cette brève sur la manif interprofessionnelle. Une petite brève où j'aurais voulu faire un petit reportage, mais en fait il sera prêt pour la semaine prochaine. Donc juste je voulais dire trois mots sur une lutte dont on entend parler en ce moment, c'est la lutte du secteur de la santé et sur l'appel à rassemblement de jeudi 26 septembre dernier à l'appel du collectif Interurgence. Et je voulais juste dire qu'en fait là-bas, il y avait, quand j'y suis allée, il y avait des infirmières de différents services hospitaliers, dont les services des urgences, mais pas que. Hein. Il y avait du personnel du SMUR, du personnel du SAMU. Ils ont été ralliés par les pompiers. Il y avait aussi du personnel des EHPAD. Ils et elles sont tous liés, en fait. Et lorsqu'un endroit est attaqué, c'est tous les autres qui le sont aussi. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est que eux, ils ont conscience de ça là, et qu'il y a un truc qui se construit au niveau national et qui tente d'être interpro et qui rassemble des gens aussi bien des kinés que des infirmières. En tout cas, ils tentent ça et ils essayent de maintenir la pression en construisant ça. Donc voilà, il y aura un petit reportage la semaine prochaine et on espère pouvoir les faire venir en fait sur le plateau. Et voilà, on fera que deux brèves aujourd'hui et Françoise, ben on t'attend pour l'agenda.
Alors oui, l'agenda, eh bien déjà pour rappeler que tous les mardis à 18h au parc Paul Mistral, derrière est la mairie, il y a l'AG des jeunes majeurs exilés non accompagnés, voilà, pour faire valoir leurs droits dont on a pas mal parlé dans l'émission. Alors ensuite, jeudi le 10 octobre, de 9h30 à 13h30, il y a projection repas discussion autour du film « Sous la douche, le ciel ». C'est organisé par le Parlons-en, qui est un collectif notamment de personnes à la rue. Et c'est dans le cadre d'un festival qui s'appelle « Du monde au coin de la rue » qui est organisé par « À bientôt, j'espère ». Alors, cet événement-là, c'est à la MDH du centre-ville de rue du Vieux-Temple. Le même jour, à 19h, également une discussion avec la projection d'un film. C'est le film « Regarde, elle a les yeux grands ouverts ». Donc ça, c'est un film qui a été fait en 1980 sur le MLAC. Donc c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception qui était très actif dans les années 70 notamment. C'est gratuit, ce sera en présence d'une personne qui militait elle-même au MLAC. C'est au planning familial 30 boulevard Gambetta, au 5e étage, organisé par nous toutes. Et petite info importante quand même, c'est que c'est en non-mixité 100 hommes 6. Si vous n'êtes pas sûr de ce que ça voulait dire, ce que ça veut dire, je vous encourage à aller voir sur l'annonce de l'événement, ça vous expliquera. Ensuite, on passe au samedi 12 octobre. À partir de 16h, il y a un concert et une assemblée populaire sur le RIC, donc référendum initiative citoyenne, un procédé dont on entend pas mal parler depuis les Gilets jaunes. Et là, c'est par rapport aux démolitions de logements qui sont prévues dans le quartier Arlequin. C'est organisé par le DAL cette journée-là et ce sera au Patio 97 Galerie de l'Arlequin. Le mardi 15 octobre à 20h, au Méliès, il y aura une projection débat autour du film « Ici, on noie les Algériens », 17 octobre 1961. C'est un film de Yasmina Hadi. C'est organisé par la LDH. Et bien justement, le 17 octobre, comme chaque année à Grenoble, il y aura le rassemblement du souvenir à la mémoire des militants et militantes algériennes massacrées le 17 octobre 61 à Paris. Et ce sera place Edmond Arnault. C'est à l'appel du CSRA, collectif de soutien aux réfugiés algériens, Ralfron, Isère et Amal. Après, plus festif, plus léger peut-être, le vendredi 18 octobre, à la BAF, il y aura une soirée court-métrage et pyjama. Du coup, c'est l'occasion de proposer et de voir des courts-métrages DIY, donc qui sont faits par nous-mêmes, sans moyens, sans, en toute humilité, mais ça peut être très très drôle. Donc c'est à la BAF de Chemin des Alpins, à 19h, un repas vegan, et à partir de 20h30, les projections. Mardi 23 octobre, il y a une soirée de soutien à Antigone au 3 plus 4 plus 2 de Briançon. Du coup, les personnes qui sont en procès pour délit de solidarité. Donc c'est à partir de 20h, Antigone, 22 rue des Violettes. Parce que justement, le lendemain, le mercredi 24 octobre, à 13h45, il y a un des solidaires de Briançon qui passe en appel au tribunal pour délit de solidarité. Il y avait une autre audience pour une autre personne le 2 octobre. Et donc, il y a un appel à rassemblement, repas partagé devant le palais de justice pour soutenir ce camarade. Et c'est tout pour l'agenda pour cette semaine.
Merci, c'était l'émission Micro-ondes pour sa première sur Radio Campus 90.8 FM. On se retrouve, ne l'oubliez pas, la semaine prochaine de 13h à 14h pour la suite de notre discussion sur le travail social avec nos invités. Et le dernier mot aujourd'hui, c'est pour Camille qui va nous présenter la chanson qu'elle a choisi de passer aujourd'hui. Et donc, à la semaine prochaine sur le 90.8.
Alors, j'ai choisi « Quitte à t'aimer » de Hocus Pocus. Et c'est la première musique qui m'est venue en tête quand on m'a demandé de venir à cette émission. Et puis aussi, je crois que si on est en lutte, c'est parce qu'on aime notre pays et on a envie de le protéger.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Salut.
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 Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder?
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je m'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup.
Ouais.
Petit, je l'aime beaucoup.
Petit pays, je voulais te dire deux mots. Je te parle en ami, vu qu'on se connaît depuis le berceau. Je t'aime bien, mais laisse-moi juste te dire que parfois tu délires et souvent tu fais pire. T'as 60 millions de gosses à assumer. Des petits anges, des petits diables. Ça fait un paquet de monde pour dîner. Je comprends que parfois, à table, tu pètes un câble. Petit pays, tout le monde te dit que tu déconnes. Quand tu les laisses dormir dehors alors que c'était mauve. La rumeur court sous les ponts et sur les trottoirs. Il paraît qu'ils portent ton nom et que tu veux pas les voir. Ton histoire est bien plus que celle d'une vie. Tu ne comptes plus les erreurs que t'aimerais oublier. Alors trop souvent, tu simules l'amnésie. Et comme mes frères et sœurs, je continue de t'aimer.
Petit pays, je t'aime beaucoup.
Ouais.
Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup.
Petit pays, tu m'as vu pousser. Depuis 28 ans, toi, t'as pas vraiment changé. À peu de choses près, tu tiens les mêmes propos, les mêmes défauts, cachés sous le même drapeau. Tiens, regarde, j'ai retrouvé des vieux clichés. On y voit le port de Nantes, en couleur sépia, je te reconnais pas. Qui sont ces hommes enchaînés? Au-delà de l'image, cette liste, c'est quoi? Petit pays, pourquoi dans ton journal intime avoir déchiré des pages et effacé des lignes? Pourquoi la main sur le cœur, cette étrange chanson? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Avec ta langue maternelle et celle de tes ancêtres, tes enfants n'en font qu'à leurs lettres. Ils te parlent et tu restes blême. Quand ils disent je te quitte pour te dire je t'aime.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup.
Écoute.
Petit pays, je t'aime beaucoup.
Yeah.
Petit, je l'aime beaucoup.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup.
J'espère que tu prendras note de tout ça en tout cas. Ouais.
Je l'aime beaucoup.
Petit pays, tu
tu as du caractère. Tu sais dire non et on peut pas te la faire à l'envers. T'as des valeurs, une culture métissée. Mais qui sait, demain tu mangeras peut-être épicé. On se lasse au bout d'un moment. Difficile de partager l'ordinaire. Alors du coup, toi tu es 5 ans. Tu te dégotes un nouveau partenaire. Parfois à cette occasion tu bois comme un ivrogne. Et tu te réveilles au lit avec un borgne. Tu le mets dehors mais comme t'es accro tu bois trop. Et finis sous les draps d'un escroc. Petit pays, ne le prends pas mal. Car tu sais qu'au fond je t'apprécie. Mais s'il fallait que tout mon sac te déballe, s'il te plaît dis-moi que tu m'aimes aussi.
Petit pays.